Bekeluka. Il est 13h à Bangui, 13h à Combattant, même heure également à Lakwanga. C'est l'heure de suivre le journal de la mi-journée avec Inès Langopo. Inès, bonjour.
Bonjour Gislain, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le plan de réponse humanitaire pour l'année 2020 en République centrafricaine est dévoilé. Sa mise en œuvre nécessite plus de 240 milliards de francs CFA. Calvaire des déplacés du chantier minier de Kolo dans la Basse-Côte, en fuyant les exactions des éléments de l'UPC pour le village Ndanda, situé à 73 km de Bangassou, ils se retrouvent aujourd'hui sans aide humanitaire. Et puis les activités commerciales commencent à reprendre progressivement à Birao dans la Vakaga. Nous serons en ligne avec notre correspondant dans ce journal. En sport, cette bonne nouvelle pour le basketball centrafricain, Jerry Ngopo, désormais boursier de la NBA Academy au Sénégal. La RCA dispose déjà d'un plan de réponse humanitaire pour l'année 2020. Il a été présenté hier à Bangui aux partenaires. Plus de 40 millions de dollars américains, soit plus de 240 milliards de francs CFA sont prévus pour cette planification. Ce programme permettra d'assister près d'1,5 million de centrafricains touchés par la crise. Le point avec Rodrigue Leroy Benga.
Cette réponse humanitaire sera multisectorielle d'après Denise Brown, coordonnatrice des actions humanitaires.
La priorité, en fait, c'est d'avoir une réponse humanitaire qui est multisectorielle. Donc on cherche cette convergence des activités afin de livrer une assistance adéquate à la population. Cette année, c'est 1,1 million de personnes, donc ça c'est en moyenne 700 000 personnes par mois qui reçoivent une aide au niveau des vivres, de soutien dans le domaine de la santé, nutrition, éducation, eau, assainissement. Ça touche tous les secteurs importants.
Si l'accès aux personnes en besoin d'aide est difficile pour les acteurs humanitaires, le gouvernement de son côté entend faciliter l'accès de cette aide aux personnes vulnérables. Virginie Baïkoua, ministre de l'Action humanitaire.
Nous avons notre rapport pour aider les humanitaires, faciliter leur travail, travailler en coordination avec nos amis qui sont venus nous donner un coup de main. Avant, pour aller à Bambari, on mettait une journée. Le gouvernement, sur les fonds propres, a aménagé le tronçon Bangui-Bambari. Aujourd'hui, vous pouvez faire Bangui-Bambari dans 5 heures de temps. Ça, c'est aussi l'apport du gouvernement.
Cette planification de réponse humanitaire pour l'année 2020 est élaborée alors que quelques poches de conflit faisant des milliers de déplacés sont encore enregistrées en RCA. Le budget total de ce programme n'est mobilisé qu'à 51%, soit près de 250 millions de dollars.
Rodrigue Leroy Benga sur Radio Ndekeluka.
Dans la Basse-Côte, les déplacés du chantier minier de Kolo traversent de difficiles conditions de vie.
Ils sont au village Ndanda, situé à 73 km de Bangassou dans la sous-préfecture de Bakouma, fuyant leur village annexé par les hommes armés de l'UPC au mois d'août. Ils se retrouvent sans aide humanitaire d'urgence. Les précisions de Jean Balipio, notre correspondant à Bangassou.
Ils sont déjà plusieurs centaines à atteindre le village Ndanda depuis l'incursion des groupes armés en provenance de Bambari dans la zone le 20 août dernier. Hommes, femmes et enfants, des vieillards ont fait des kilomètres à pied traversant forêt, brousse pour atteindre le village Ndanda où ils espèrent trouver une protection. Arrivés sur place, ils se confrontent à des difficultés de plusieurs ordres. Manque de nourriture, de médicaments et de structures d'accueil. À cela s'ajoutent des difficultés relatives à la prise en charge scolaire de leurs enfants. De manière générale, la situation humanitaire est alarmante. Ces déplacés lancent de vive voix un appel aux ONG humanitaires et au gouvernement de leur venir en aide. Jean-Balipio Bangassou, Radio Ndekeluka.
Toujours dans la Basse-Côte, la sous-préfecture de Mingala continue de subir les exactions des éléments de l'UPC.
Depuis l'occupation de cette ville le 28 août dernier par ce groupe armé, des cas de meurtre, pillage et braquage sont quotidiennement enregistrés. Le dernier cas remonte à mercredi dernier où 16 hommes ont emporté 230 sacs de graines, de café et des meubles de la population. Mathias Touzimia, sous-préfet de Mingala, a été joint au téléphone par Rodrigue Leroy Benga.
Le mercredi, ils étaient entrés à Banadobe, un village situé à 20-25 km de Mingala. Quand ils étaient entrés, c'était aux environs de 9h, ils avaient commencé à tirer à l'arme lourde. Entre-temps, la population était déjà dispersée. Des gens étaient en brousse, d'autres étaient du côté de Koto. Ils en ont profité pour casser les portes. Ils ont ramassé 180 sacs de café de la part d'un monsieur à côté. Chez son petit frère, ils ont ramassé 50 sacs. En même temps, ils ont vidé le pasteur Elim. Ils ont ramassé même les lits avec les chaises, ils sont repartis. Quand ils étaient arrivés avec avec leurs véhicules, même à de loin, on s'aperçoit que ce sont les Sélékas. Directement, la population se vide, les gens se retrouvent comme ça en brousse. Et jusque-là, la situation est vraiment dramatique. Nous lançons un nécessaire appel par rapport aux forces de sécurité, que ce soit la MINUSCA, les FACA, tout ça, pourvu qu'il y ait une force sur le terrain pour sécuriser cette population, parce que vraiment la situation s'empire de jour en jour.
Vous venez là d'écouter Mathias Tozimia, sous-préfet de Mingala.
Quittons la base Koto pour la Vakaga où les commerces commencent à rouvrir leurs portes à Birao.
C'est depuis 3 jours que certains commerçants tentent de relancer les activités dans le marché. Les détails avec notre correspondant Abdelkader Ramadan.
Un tour au marché permet de se rendre compte de l'effectivité de cette réouverture. Carburant, viande de boucherie, poissons fumés et frais, michuis et légumes se retrouvent en ce moment sur le marché. À cela s'ajoute la reprise de certaines activités telles que la cordonnerie et mécanique moto. Les commerçants des produits pharmaceutiques ont, eux aussi, ouvert leurs portes. Hissène Karam, président de l'association des commerçants de Birao, demande aux commerçantes et commerçants encore sur le site de reprendre leurs activités. Toutefois, M. Hissène Karam s'inquiète de la fermeture de la frontière entre la République centrafricaine et le Soudan, principale voie d'approvisionnement de la préfecture. Hissène Karam.
Ils viennent ici, dans leur place, au marché, on gagne des marchandises ensemble avec eux, comme auparavant. Les marchandises viennent du Soudan, mais la frontière s'est fermée. On ne sait pas ce qu'on va faire.
Pour le président de l'association des commerçants de Birao, une grande sensibilisation permettrait aux autres commerçants de regagner le marché. Ramadan Abdelkader, Birao Radio Ndekeluka.
Inès, la deuxième session ordinaire 2019 est ouverte depuis hier à l'Assemblée nationale de Bangui.
Ainsi, Gisela, cette session de 3 mois est consacrée d'abord à l'examen du budget pour l'exercice 2020, mais aussi aux autres sujets engageant la vie de la nation. La cérémonie officielle a été présidée par Moussa Laurent Gondbaba en présence du Premier ministre Firmin Grébada et des diplomates. Moussa Laurent Gondbaba, président de l'Assemblée nationale, au micro de Igor Diasquin Senapaï.
Au terme de l'article 82, alinéa 3 de la Constitution du 30 mars 2016, je cite, « Déposé par le gouvernement avant l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 septembre, le budget est arrêté par une loi dite des finances avant le commencement de l'exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que des dispositions d'ordre financier. » Fin de citation. Pour l'exercice 2018, les élus de la nation par ma voix avaient exprimé leur satisfaction et adressé leur félicitations au gouvernement à travers le ministre des Finances et du Budget pour avoir respecté le délai constitutionnel dans le dépôt du projet de loi. Cette année, ce projet nous parvient le 30 septembre, c'est-à-dire hors délai, mais justifié par les contraintes de discussion avec les institutions internationales financières qui accompagnent le gouvernement dans la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de son programme.
L'ambassadrice des États-Unis en Centrafrique et le directeur de l'USAID entendent élargir le partenariat avec le département de la Santé.
Ils se sont entretenus lundi dernier avec le ministre de la Santé, Dr Pierre Somsi. Objectif, connaître les difficultés de ce département afin de trouver des stratégies pour aider la population. Paul Sabatine, directeur de l'USAID, au micro de Eda Lotintiko.
Nous sommes en train d'approfondir et élargir le partenariat et établir des programmes de santé publique, santé communautaire. Donc, c'était une visite de connaissances pour connaître mieux la situation, pour faire la connaissance de Monsieur le ministre et pour commencer les discussions, comment on peut s'engager et qu'est-ce qu'on peut faire ici pour aider le peuple de la République centrafricaine. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais aussi, il y a déjà un grand partenaire. À mon avis, nous pouvons faire quelque chose ensemble, quelque chose de très important. Surtout, je crois qu'il faut chercher des moyens d'appuyer un système de santé communautaire. Quand vraiment, le peuple, ils habitent au village et là-bas, les besoins se trouvent aussi au village. Mais à mon avis, les solutions aussi se trouvent au village.
Actualité africaine en bref, au Mali, au moins 25 soldats maliens et 15 djihadistes ont été tués lors d'intenses combats lundi et mardi au centre du pays.
Il s'agit d'un des coups les plus durs depuis des mois par l'armée malienne. Une 60aine de soldats maliens sont par ailleurs portés disparus et l'armée a connu de lourdes pertes en matériel, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.
En République démocratique du Congo, les ministres ont encore une semaine pour déclarer leur patrimoine.
Selon le Premier ministre du pays, tous les membres du gouvernement doivent faire leur déclaration de patrimoine dès leur entrée en fonction. Les textes donnent un délai d'un mois à partir du jour de l'investiture et le même exercice doit être fait à l'issue du mandat. Toutefois, la consigne n'a jusque-là pas été suivie très sérieusement. Et maintenant, la page sport. C'est une présentation de Henri Juvenal Kouarépédé. Bonjour.
Bonjour Inès, confort d'écoute à tous.
Bonne nouvelle pour le basketball centrafricain Jerry Ngopo, désormais pensionnaire de la NBA Academy basée à Assali au Sénégal.
Le jeune pivot international centrafricain avec une taille de 2,5 m est recruté pour y suivre une formation. Jerry, qui est l'un des piliers de son club e-Trésor Sporting Club en ce moment, a quitté Bangui ce matin pour Dakar, puis Sali. Là, il va où est passé son compatriote et coéquipier en équipe nationale, Axel Wechseder, qui lui est parti dans l'université américaine de New Mexico avant une probable draft pour jouer en NBA.
Je vais dans les 17e mondiaux d'athlétisme se poursuivent à Doha, au Qatar. Aucun athlète centrafricain n'est présent à ces compétitions.
La compétition a démarré depuis le 27 septembre dernier et prendra fin le 6 de ce mois. Bien qu'il y ait le nom de Keturah Ndoye-Tinzapa, celle-ci n'est pas partie à Doha pour des raisons non connues pour le moment. Pendant ce temps, l'Américain Christian est le nouveau champion du monde sur 100 mètres avec un temps de 9 secondes 76 centièmes. Chez les dames, la Jamaïcaine Chelly Ann Fraser-Pryce a remporté le 100 mètres. Dames, la Kenyane Ruth Chepigeti a remporté le marathon dames sur une distance de 42 km pendant laquelle 28 des 68 participantes ont abandonné à cause de la chaleur.
En boxe, un report d'une compétition sous-régionale qui devrait démarrer le 18 de ce mois à Malabo, en Guinée équatoriale.
La compétition initialement prévue le 18 octobre est reportée au 14 décembre prochain. 16 boxeurs issus du Cameroun, Gabon, Nigeria, Ghana, la RCA et la Guinée équatoriale, pays hôte, y seront de la partie. Les représentants centrafricains Gildas Bagana et Amandine Ndarata continuent leur préparation à Bangui.
Autre report, c'est celui de la Coupe de l'UNIFAC féminine.
La compétition qui devrait avoir lieu du 4 au 13 octobre est également reportée selon une source proche de la Fédération centrafricaine de football. Les Fauves d'Armes se préparent à Bangui depuis plus de deux mois en livrant des matchs amicaux avec des clubs et écoles de foot de la capitale.
À quand le démarrage du championnat de la Ligue de Bangui en deuxième division?
Les clubs s'entraînent et plusieurs se disent ne pas être informés de la date du démarrage de cette compétition. Contactée, la Ligue dit attendre la liste de clubs auprès de la Fédération pour établir le calendrier. La Fédération promet revenir avec plus d'informations concernant cette liste des clubs en deuxième division.
Pendant ce temps, le championnat de la première division se poursuit au Stade Barthélémy Bouganda.
Oui Inès, cet après-midi, un seul match est au programme à partir de 15h. Un bon duel va opposer Red Star à Espérance Football Club du 5e arrondissement. Hier, le Stade centrafricain a été battu par le Football Club des Forces de Défense et de Sécurité. 2-1, c'est la deuxième victoire consécutive du FCFDS et la deuxième défaite du Stade centrafricain.
Merci à vous Henri Juvenal. Le quoi répéter, c'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndeke Luka. Merci à vous de l'avoir écouté.